Bienvenue sur Génération Remote, le podcast qui vous partage les bonnes pratiques du télétravail. Je m'appelle Xavier Coiffard et tous les 15 jours, je reçois des entrepreneurs, des managers et des digital nomades qui me partagent leur retour d'expérience sur le remote. Dans chaque épisode, des bonnes pratiques et des conseils par ceux qui le vivent au quotidien. Si ce podcast vous plaît, partagez-le et abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui sur le podcast, je reçois Flore Vimo, qui est directrice conseil RH et DRH chez Boson Project. Salut Flore, merci de venir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter aussi ce que c'est que le Boson Project?
Salut Xavier et salut à tous. Merci de me recevoir aujourd'hui sur ce super podcast. Donc je suis Flore Vimo. Moi, j'ai 12 ans d'expérience dans la fonction RH, donc en grand groupe, en start-up et maintenant en cabinet de conseil. J'ai la particularité, comme tu le disais, d'avoir deux casquettes. Donc, je suis à la fois la DRH des Bosons tout en étant en conseil et en observatoire auprès de clients et les Bosons pour nous présenter brièvement. Donc, on a plus de 10 ans d'existence. On a été créé par Emmanuel Duez. Historiquement, notre raison d'être, c'était vraiment de favoriser l'intégration de la génération Y dans le monde du travail. D'un côté, on avait une génération qui avait des nouvelles aspirations au travail en termes de sens, de management, de collectif. Et d'un autre côté, on avait plus besoin que jamais que les boîtes se transforment, notamment sur des sujets digitaux. Et c'était aussi le début des sujets dits de RSE, donc écologiques, sociétaux et sociaux. Et donc, il y avait quelque chose à créer autour de cette intégration, de cette jeunesse au travail. Et progressivement, on est allé sur des thèmes de management, de collectif, d'engagement. Et notre mission aujourd'hui, c'est de réenchanter l'engagement au travail pour permettre des grandes transitions, pour permettre et accélérer les grandes transitions.
Ok. Ce que je te disais en off, et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous faites, et de ce que tu fais, de ce que vous faites en plus généralement chez Boson Project, c'est que vous avez une vision d'ensemble, en fait. Comme vous avez une mission de conseil, vous avez conseillé des dizaines de boîtes, à la fois dans le changement, dans le management, dans l'innovation RH et tout. Et c'est hyper intéressant, parce que moi, en général, ce que je fais, c'est que j'interviewe des gens qui sont dans leur boîte, donc ils ont leur petite expérience, même si des fois c'est des super expériences. Hein, il y a pas longtemps, j'ai interviewé par exemple Blablacar, qui a une super expérience avec 700 employés et qui ont migré vers du remote, etc. Mais ça reste quand même que leur expérience à eux. Vous avez une vision d'ensemble qui est hyper intéressante. Et en plus, par-dessus tout ça, vous avez rajouté une couche de sciences sociales qui fait que vous avez une démarche qui est vraiment, vraiment... très large, qui se veut scientifique, avec un échantillon du coup plus large et un peu plus représentatif. Donc c'est très intéressant de te recevoir sur le podcast et de pouvoir discuter avec toi de l'impact du télétravail. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu de l'impact du remote avant, après Covid, sur les entreprises, qu'est-ce que ça a changé, etc. Est-ce que tu peux peut-être nous faire une petite un petit aperçu un petit peu de justement ce qui a changé depuis le Covid. Le Covid, on a tous été en remote forcé et depuis là, on en est sorti. On entend beaucoup parler de plein de choses différentes en ce moment. On entend parler de retour au bureau, que c'est la fin du remote, que ça ne fonctionne pas. Tu vois, plein de choses comme ça qui sont un peu des modes. On a l'impression que ça passe et ça repasse. Qu'est-ce que toi t'en penses et quels sont les grands changements que vous avez identifiés depuis cette période?
Effectivement, donc le Covid, on en parle toujours deux ans et demi après, mais c'est vrai que d'un point de vue des sujets RH et d'engagement au travail, ça a été vraiment un tsunami. Et petite aparté, mais les chiffres de l'absentéisme, de la démission et des postes vacants continuent d'accélérer. Donc, on n'est pas sorti, okay, en fait, de ce qu'on appelle aujourd'hui la crise de l'engagement au travail. Et en fait, elles sont là-dedans, les boîtes, aujourd'hui. Il y a beaucoup de patrons qu'on accompagne qui nous disent que demain, la boîte qui va réussir, ce n'est pas celle qui aura la meilleure innovation produit, mais c'est celle qui aura l'équipe, en fait, pour mener le projet. Donc, le sujet d'avoir des gens engagés et motivés à l'intérieur des boîtes, il est plus que jamais stratégique. Et en face, on a des boîtes qui s'arrachent les cheveux sur l'équation impossible qui est devenue l'engagement, avec historiquement des gens qui demandaient effectivement plutôt des sujets autour de la rémunération, du statut, de l'évolution. C'est ajouté, j'en parlais tout à l'heure, mais avec la génération Y, les sujets de sens au travail et d'utilité, d'impact, d'utilité, de sens au travail. Et entre les deux, de plus en plus, on parle des conditions de travail, donc comment on se sent considéré dans sa diversité, comment on a le droit à un meilleur équilibre vie pro-vie perso, comment on est tout le temps dans des courbes d'apprentissage accélérées, comment on vit le collectif avec des choses qui sont parfois complètement paradoxales entre l'envie de beaucoup de liberté pour s'organiser et l'envie de beaucoup de collectif pour apprendre et se sentir appartenir. Et en fait, face à cette équation qui est devenue très complexe, les entreprises, elles savent pas trop comment actionner la machine. Et côté entreprise aussi, la fonction RH, elle s'est beaucoup spécialisée. Donc, on va avoir le référent diversité, le référent compenben, le référent dialogue social. Alors qu'en réalité, ces sujets, ils sont communs. Et il s'agit surtout de se poser la question de qu'est-ce que je promets à un collaborateur, contre quoi il est prêt aujourd'hui à s'engager. Durablement, ça veut dire aussi avec toutes ses idées, toute sa créativité et toute son implication, pas forcément durablement dans la durée au sens où il y a quelque chose quand même qui a tourné, voilà, rester 3 à 5 ans dans une boîte, c'est déjà intéressant. Peut-être que le sujet, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait de ces 3 à 5 ans ensemble que de tirer à tout prix le temps où la personne est présente. Mais tout ça pour te dire que, en fait, le télétravail, c'est dans ce truc qui est quand même très complexe, à fort enjeu, dans lequel on n'a pas de clé, ça a été le truc sur lequel on s'est accroché, qui a cristallisé des discussions et dont les entreprises se sont emparées parce qu'il a été incontournable. Mais quelque part, ce n'est qu'un des grands sujets de l'engagement. Tu vois, le télétravail, ça vient toucher des sujets. Voilà. Après, là où c'est intéressant, c'est que le télétravail, sous couvert de se parler de nombre de jours de présence, etc., en fait, on se parle de confiance dans le management, on se parle de meilleure mesure des résultats, on se parle d'un mode où on n'est plus en train d'associer la performance à si la personne est présente ou pas. Et en fait, ça, c'est une révolution managériale, en fait, d'autoriser le télétravail. Ouais. Et la façon dont les boîtes l'ont fait, c'est intéressant. Nous, on observe, voilà, dans toutes les boîtes qu'on a accompagnées et qu'on connaît, un peu 3 grands types de boîtes. Donc, tu as vraiment celles qui ont inscrit plutôt un nombre de jours de télétravail. Okay. C'est la majorité des boîtes. Et donc là, c'est assez classique en termes RH de faire ça. C'est vraiment tout le monde a le droit. Donc, c'est une décision unilatérale. Donc, c'est l'ARH qui décide pour l'ensemble des salariés sous couvert de lisibilité et notamment d'équité, hein, qui est un grand sujet pour l'ARH. Et voilà, tout le monde dans la boîte a le droit à 2 ou 3 jours de télétravail. Quand je dis 2 ou 3 jours, c'est pas neutre parce qu'en fait, ça veut dire dans l'un ou l'autre cas qu'on est soit la majorité du temps en télétravail, soit la majorité du temps au bureau. Et on voit qu'aujourd'hui, les boîtes, elles tendent quand même à plutôt 2 jours de télétravail et 3 jours de présence pour avoir la majorité du temps qui est plutôt au bureau.
Ok.
Donc ça, c'est ce qui a été fait de manière globale. Et ensuite,
en fait, c'est intéressant, je te coupe, excuse-moi. C'est intéressant parce que, tu vois, dans l'épisode que j'ai fait juste avant avec BlaBlaCar, et même en général, les boîtes que j'ai fait et que j'ai interviewé avant, en 2019, pré-Covid, ils avaient un sujet recrutement, en gros. Ils n'arrivaient pas à recruter les meilleurs talents. Et du coup, ils se sont dit, en fait, on va passer au remote, donc après ou pendant ou avant le Covid. Ils sont tous passés au télétravail en essayant d'être le plus flexible possible pour attirer les talents qui manquaient. Et maintenant, en fait, ils se rendent compte que, avec du remote, effectivement, il y a une vraie problématique de révolution managériale, qui a aussi toute la problématique de créer du collectif, créer de l'engagement, créer de la culture d'entreprise. Et qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Et du coup, toutes les boîtes qui ont mis en place du remote en se disant on va y aller, ça va être cool, on va pouvoir recruter. En fait, ils se rendent compte maintenant que effectivement il y a des problèmes d'engagement et culture Donc c'est hyper intéressant que vous l'identifiez vous comme comme un truc majeur du moment, quoi.
Ouais, effectivement, c'est intéressant ces effets de balancier en fait, notamment entre l'individu et le collectif. En fait, ce dont tu parles, c'est comment chacun se sent considéré, plus maître de son temps, plus libre, plus responsabilisé, ouais. Mais sans perdre en réalité l'essence de ce qui fait une boîte. C'est un projet. Une boîte, c'est pas on n'est pas dans un système de répartition de tâches uniquement, on est dans un système où on essaye de construire quelque chose ensemble. Donc si on est sur cet aspect-là, on ne peut pas faire fi du collectif. Donc après, il y a plein de manières de créer du collectif en remote, mais là-dessus, notre grande analyse, c'est que ça se fait pas de manière organique et au hasard. En fait, plus tu es en remote, plus il faut organiser la partie collective et la partie culture. En fait, ça se fait pas naturellement.
Et tu peux nous donner des exemples ou des tips pour des gens qui écouteraient le podcast et qui sont en plein dedans et qui du coup se posent la question de comment faire pour organiser ou réorganiser la culture d'entreprise chez eux.
Ouais, alors ça, moi, justement là-dessus. À l'inverse d'une décision unilatérale où le télétravail est décidé par la RH, etc., qui en fait rend tout le monde un peu passif par rapport à ce sujet, et puis parfois dans la revendication par rapport à la semaine où je suis en vacances et où en fait j'ai pas envie de revenir 3 jours au bureau, j'ai envie de faire une semaine de télétravail complète. Voilà, donc ça crée des effets de bord qui sont pas hyper positifs pour le collectif de prendre une décision comme ça très unilatérale. Et en fait, nous, notre recommandation, et on pense que le télétravail est un super levier pour le faire, c'est de permettre à travers le télétravail, notamment à travers un kit de discussion, d'avoir des discussions entre équipes portées par le manager notamment, ou par quelqu'un qui a vraiment une fibre sur le sujet, de se dire quand est-ce qu'on se voit, quels sont nos besoins individuels et collectifs, qu'est-ce qui crée de la valeur dans notre métier, comment notre métier va se transformer, comment est-ce qu'on va travailler aujourd'hui, comment est-ce qu'on va travailler demain, et en fonction de tout ça, qu'est-ce qu'on décide de faire en termes de télétravail. Et en fait, Danone, qui est une boîte intéressante hein, sur le sujet RH, notamment parce qu'elle fait les choses à grande échelle, parce que c'est quand même une entreprise avec beaucoup de salariés, en fait, la borne de télétravail au niveau siège, elle est très flexible. Et c'est les équipes elles-mêmes qui remontent leur façon de s'organiser. Et moi, je trouve que ça, c'est très, très puissant parce qu'en fait, le télétravail, il doit être réfléchi en fonction d'énormément de facteurs. Et moi, ce que je trouve important dans les boîtes en ce moment, on analyse beaucoup, nous, les effets générationnels, les 4 générations qui se côtoient au travail, etc. Mais en ce moment, dans la tête des collaborateurs, il y a tellement de façons différentes d'interpréter une même chose, les règles au travail, le management, le collectif, la façon d'être, ce qu'une boîte nous doit, etc., que ces discussions, elles ont le mérite aussi de rendre les choses beaucoup plus explicites, de se parler beaucoup plus des choses et de mettre en fait au même niveau mes besoins individuels et mes besoins d'équipe. Et donc moi, c'est vraiment ma recommandation sur ce sujet, c'est d'en faire un outil de discussion, un outil d'animation. Et pourquoi pas de se dire que ça change tous les 3 mois, qu'on en rediscute et qu'on est très flexible, mais on s'en est parlé ensemble, en fait.
Ok. En fait, moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Le télétravail, tu disais que ça cristallise, mais moi, je trouve que c'est vraiment un accélérateur de problématiques et de solutions, en fait. Parce que, comme de fait, on se voit plus, en fait, on peut plus vraiment mettre de scotch sur ce qui marche ou y est avant. On est obligé de se parler et tout ça. Et c'est, bon, alors, pas toujours. Il y a des boîtes qui le font pas et ça se fait dans la douleur, etc. Mais les boîtes qui le font bien, en fait, en général, c'est à peu près toujours la même réponse. C'est faites confiance aux gens et discutez pour co-construire, en fait, plutôt que d'imposer. Parce que ça ne fonctionnera pas si vous n'êtes pas sur place, quoi. Hyper intéressant.
Et tu vois, là-dessus, parce qu'on se parlait en préparation de ce podcast du grand sujet de l'innovation RH. Mais tu vois, pour moi, décentrer la prise de décision sur des sujets RH, ça, c'est vraiment une innovation majeure. Et j'ai vraiment remarqué que les boîtes qui ont pris le sujet du télétravail de cette manière-là, en fait, elles vont prendre tous les autres sujets RH de cette manière-là. C'est-à-dire que, pour te donner des exemples, il y a beaucoup de sujets en ce moment autour de la diversité et de l'inclusion. Nous, on a beaucoup travaillé le sujet de la parentalité et des aidants et comment ça peut être un sujet transverse à toutes les générations. Ouais. Et en fait, il y a des boîtes qui vont être très frileuses d'avancer dessus en se disant « mais si je fais ça, ça va exclure telle personne » ou bien « bah moi, j'ai mis en place plein de dispositifs, je ne comprends pas pourquoi les gens ne sont pas contents ou satisfaits ». Et donc, ils restent dans cette approche un peu top-down, etc. Il y en a qui ont basculé totalement en mode design, en mode « je ne sais pas à l'avance si c'est la bonne solution, mais on va se permettre d'en parler et d'expérimenter ». On va mettre en place des sujets. Donc, on va se dire, voilà, on a trois types ou quatre types de parentalité. Donc, on va mettre une mesure phare pour différentes situations. Et en fait, on va prendre le retour des parents. On va voir si ça change quelque chose, si ça tombe complètement à côté de la plaque, s'il faut utiliser quelque chose d'autre. Et en fait, ça a des bénéfices beaucoup plus forts en termes d'engagement et de co-construction que de prendre une décision avec aujourd'hui, notre étude là-dessus, elle dit que 60% des gens ne savent pas les dispositifs auxquels ils ont le droit. Donc comment on vise juste, comment on intègre les gens, comment on le fait évidemment sans que ça leur fasse perdre trop de temps, parce que c'est pas le métier de tout le monde de réfléchir aux politiques RH. Mais tu vois, moi je pense qu'il y a quelque chose là, une bascule hyper intéressante sur le fait de décentrer les décisions.
Ok. Et tu penses sur toutes les problématiques RH, que ça soit le recrutement, le offboarding, comme on dit, toutes ces problématiques là, elles seront décentralisées, on va dire, au fur et à mesure. Tu penses?
Alors il y a par exemple l'autre chose intéressante, c'est que là il y a un gros courant quand même sur le sujet des grilles de salaire transparentes. Donc ça, c'est intéressant parce que en réalité, la décision de fixer les salaires, elle reste à la main de la RH et probablement de la direction, avec à la fois des sujets de benchmark externe et puis de qu'est-ce qu'on a envie de promettre en interne. Tu vois, la part de variable, de fixe, enfin tout ça, ça dit beaucoup d'un modèle social d'une boîte. Et en même temps, c'est connu et compris de tous. Il y a même des boîtes qui poussent le curseur de s'auto-positionner en fait là-dedans en fonction de critères, objectifs, etc. Donc tu vois, là il y a deux phénomènes. Il y a des grands cadres qui sont fixés, mais à l'intérieur de ce cadre, les gens peuvent se l'approprier, se positionner, s'auto-évaluer. Et ça, c'est aussi intéressant parce que on va pas prendre tous les collaborateurs vont pas prendre toutes les décisions, mais ça peut être intéressant qu'ils participent à certains bouts de la décision grâce à beaucoup d'informations hyper éclairées. Et sur le recrutement, typiquement, de plus en plus, ça a toujours été le cas. En fait, c'est pas une décision RH. La RH a une reco, mais c'est quand même le manager et l'équipe. Et de plus en plus, l'équipe, d'ailleurs, qui décide de recruter quelqu'un. Et ça, évidemment, moi, je suis très, très favorable, et je pense que c'est beaucoup plus utile de rencontrer l'équipe en avance, de restituer son étude de cas, non pas seulement au manager mais à toute l'équipe, d'avoir des discussions de fond en amont, parce qu'en fait les candidats, ils ont envie de savoir à l'avance comment ils vont travailler avec les gens, donc ça leur permet d'avoir une preuve. Et l'équipe, en fait, plus elle est embarquée dans le recrutement, mieux l'intégration va se passer. Donc effectivement, trouver comme ça des parties ou des bouts de la décision qui sont redonnés au plus proche du terrain, quoi.
Ok. Et du coup, vous observez une corrélation entre le fait de décentraliser, innover, être plus transparent, plus communiquer, d'un point de vue RH, tu vois, sur tous ces sujets, et sur l'engagement dont on parlait au début du podcast. Il y a une vraie corrélation entre ces deux aspects-là.
Ouais. En fait, ce qui est intéressant, ce que les collaborateurs nous disent, c'est que le résultat est important, mais la démarche pour y arriver, c'est ça qui va créer beaucoup de fierté d'appartenance. Donc, de dire que tu dises, moi, dans ma boîte, je suis en train d'expérimenter la semaine de 4 jours, on s'est donné ces balises-là, on fait des entretiens de suivi, des baromètres. etc. Et pareil sur les groupes, notamment sur le sujet de la diversité et de l'inclusion, ça crée beaucoup de fierté de se sentir davantage considéré, ouais, et de sentir que la boîte considère davantage les autres. Donc oui, c'est un impact majeur sur l'engagement, au-delà même de la décision qu'on va réellement prendre grâce à ces démarches, quoi. Après, il ne faut pas qu'elles soient factices, okay, mais, ouais, mais en fait, si à la fin de la journée, on se dit cette mesure, elle tombe, c'était un coup d'épée dans l'eau, il faut en prendre une nouvelle, ça ne va pas créer de désengagement.
Ok, ok, intéressant. Peut-être quelques mots sur la semaine de 4 jours. Tu me disais avant le début du podcast que vous étiez du coup passé en ce moment en semaine de 4 jours.
Ouais.
Intéressant. Est-ce qu'on peut avoir, je pense qu'il faudra probablement un épisode entier sur la semaine de 4 jours, mais ton retour d'expérience rapide, il peut être intéressant, je pense.
Oui, donc là, du coup, je passe en mode praticienne après avoir été plutôt, ouais, observatrice de ce qui se passe dans les boîtes dans le début du podcast. Donc, chez Les Bosons, donc ça fait un moment qu'on réfléchit à avoir un modèle social différenciant, parce que c'est notre métier et que on a envie de faire du travail d'orfèvrerie en interne. Voilà, donc nous on a organisé notre, okay, modèle social autour de 3 piliers: l'apprentissage, le collectif et l'équilibre. Et on est en amélioration continue sur ces 3 différents piliers. Tu vois, nous, par exemple, on n'a pas mis la flexibilité comme pilier. Donc, par exemple, on n'a jamais mis, nous, une emphase particulière sur le télétravail parce que ça ne correspond pas, selon nous, à notre ADN, à la façon dont on apprend, dont on se transmet les choses. On a quand même une culture vachement informelle. On s'échange énormément, okay, d'idées en mission, en transverse, etc. Voilà. Et donc, sur le sujet de l'équilibre, donc on est dans le conseil. Donc beaucoup de deadlines, des clients exigeants, beaucoup de travail, et on avait vraiment envie de prendre le sujet à bras le corps. Et en fait, on avait un phénomène où donc nous, quand on est bon quand même, quand on a vraiment des idées, qu'on a eu le temps de regarder ce qui se passe en externe, qu'on est inspiré, qu'on a digéré de la matière, tu vois, presque un petit peu médiatique, politique, pour la traduire pour les entreprises, etc. Et en, oui, fait, on se sentait tout le temps un peu en mode prod. Voilà, on enchaîne les échéances, etc. Et on avait l'impression que par manque de temps et de décentrage et de dézoom, on perdait en réalité un peu de qualité dans notre proposition de valeur. Okay. Et donc on a décidé, pour cette raison-là et aussi parce que on n'avait pas envie, pour le coup, sur les parents, parce qu'on a eu une grosse vague de parentalité, de mettre en place des mesures spécifiques pour eux. Mais on s'est dit que la semaine de 4 jours pouvait les aider eux et pouvait aider tous les autres sur d'autres sujets. Il y en a qui se sont engagés politiquement, il y en a effectivement qui vont chercher leurs enfants plus tôt. Il y en a qui ont retrouvé l'envie de faire du sport, d'aller voir des expos ou de lire. Donc tout le monde en fait un peu ce qu'il veut. Et en fait, ce que ça a créé, c'est beaucoup de fierté en se disant « on essaye ». On s'était mis des balises, donc en termes de satisfaction client, de culture d'entreprise et de chiffre d'affaires. Donc ça, okay, on suivait ces grands items. Et en parallèle, on a fait des entretiens, parce que c'est ce qu'on fait aussi pour les boîtes. Mais nous, on fait beaucoup d'entretiens qualitatifs sur qu'est-ce que ça a changé dans les modes de travail, comment les gens se sentent, quel est le bénéfice perçu. On a réglé des effets de bord où il y a des personnes, en fait, qui étaient tellement stressées de ce vendredi off, qui travaillaient comme des dingues le reste de la semaine et qui, du coup, étaient encore plus épuisées. Ouais. Ouais. Voilà. Il y en avait qui se rendaient compte qu'en fait, en faisant le même nombre de jours de télétravail qu'avant, ils passaient à côté de 90% des infos. Donc, on s'est posé aussi des questions sur le fait qu'en fait, on était de moins en moins remote friendly parce que beaucoup, ouais, de choses se passaient au bureau, etc. Voilà. Ensuite, ça a permis aussi pour nous de structurer davantage la partie commerciale, qui pour nous était un peu le truc qu'on faisait quand on avait le temps. Et en fait, quand on a moins le temps, il faut vraiment se dire ok, c'est quoi les piliers de la semaine, qu'est-ce qu'il faut que j'investisse, quel temps, c'est quoi mes KPIs pour envoyer une propale, etc. Donc on s'est vraiment, en fait, de la même manière que tu le disais sur le télétravail, en fait, la semaine de 4 jours, elle a permis de résoudre des problèmes structurels assez forts chez nous, de répartition des tâches, de responsabilités, de KPIs d'action, etc. Et pour voilà. Et en termes de bilan, tu vois, aujourd'hui, on n'est pas sur un modèle parfait. Donc, ça nous arrive. Alors, dans le dernier survey, on était à peu près 50% à travailler quand même, enfin quelques fois ou souvent, plutôt 3-4 heures par jour que 7-8 heures. Okay. Mais par contre, le bénéfice de c'est une journée qui est différente, qui m'appartient et sur laquelle je ne suis pas sollicitée. Pour le coup, okay. le voilà. Et donc, on l'appelle la journée protégée. En fait, c'est pas la journée garantie, c'est la journée protégée. Okay. Et chacun, en fait, voilà, comme on est surresponsabilisé en mission, utilise son vendredi s'il en a besoin pour travailler. Et peut aussi ne pas travailler s'il a pas besoin, enfin s'il y a rien d'urgent en réalité. Ça a permis de requalifier okay. ce qui est urgent aussi. Ça, c'est un vrai sujet.
Ok, donc en fait, c'est un jour semi-off où t'es pas sollicitable, on va dire ça comme ça. Je sais pas si ce mot existe, mais et du coup, tu bosses en fonction de ton envie, ton besoin du moment, quoi. Et en général, du coup, tu fais une demi-journée, quoi, c'est ça?
Voilà, alors, pas systématiquement. Donc, t'as aussi des vendredis que tu prends entièrement, et là, c'est vraiment, ressenti plus. Mais effectivement, c'est pas non plus interdit de bosser si jamais t'as besoin de le faire, quoi.
Ok, c'est cool, merci pour le petit panorama sur la semaine de 4 jours. C'est pas un sujet que moi j'ai beaucoup creusé, mais ça mériterait d'aller voir. On en voit beaucoup en ce moment là, c'est vraiment le truc un petit peu à la mode, les 4 jours.
Mais en fait,
ça vaudrait le coup de creuser plus.
Alors là, tu parlais de sciences sociales tout à l'heure, donc je me permets une envolée sociétale, mais en fait, c'est juste que de plus en plus pendant longtemps, il n'y a pas eu de discours politique sur le temps libre. Donc, c'est comme si on avait le temps de travail et le temps libre. De plus en plus, on se rend compte de la responsabilité de citoyen qu'on a sur le fait de prendre soin de ses enfants, de ses parents, de s'engager sur des causes qu'il faut quand même prendre un peu à bras le corps parce qu'elles sont urgentes. Et en fait, reparler du temps de travail, c'est aussi reconnaître qu'on a d'autres choses à faire dans notre vie que travailler, ou être en total loisir. En fait, il y a cette zone qui s'appelle citoyenneté, qui s'appelle engagement personnel, qui s'appelle besoin de prendre soin des autres, qui est vraiment en train de réapparaître comme un besoin sociétal urgent. Et en fait, je trouve ça intéressant que les entreprises se saisissent du sujet parce qu'elles le font plutôt pour des problématiques d'engagement, de fidélisation, de rétention. Mais en fait, ce qu'elles permettent derrière, c'est du temps libre qui est aujourd'hui pour les gens aussi autant valorisé que l'argent. Donc ça, il y a eu un changement de paradigme là-dessus ces dernières années. Et en fait, ce que les gens font de leur temps, c'est ça qui va être intéressant. Et moi, je pense que ça peut vraiment faire bouger des lignes. En tout cas, sur le sujet parents, enfants, aidants, je suis sûre que ça va être le cas.
Ok. Continuons sur la thématique sociétale. Tu parlais tout à l'heure de la semaine des 4 jours que vous n'avez pas voulu mettre en place, ou par exemple pour les nouveaux parents, vous n'avez pas voulu mettre en place des conditions particulières pour eux. Et on parlait avant le podcast d'une thématique aussi qui vous tient à cœur chez Boson, ce qui est l'inégalité. Et qu'est-ce que le télétravail, on va revenir sur le télétravail, qu'est-ce que le télétravail peut engendrer comme inégalité en fonction des différents publics, etc. C'est pas un sujet non plus qu'on a l'habitude de beaucoup traiter sur ce podcast, à tort, je pense. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Qu'est-ce que vous observez? Et pareil, si tu as des recos, des tips pour gommer, avec plaisir.
Ouais, avec plaisir. Donc, effectivement, le télétravail, il comporte, enfin, il a en son sein des enjeux sociétaux très forts. Donc, on a beaucoup parlé de la fracture col bleu, col blanc, mais on se parle vraiment à travers le télétravail de ceux qui ont droit et de ceux qui n'ont pas droit. Et en fait, tout ça, c'est cumulatif d'autres avantages très forts qu'ont les uns et qu'ont pas les autres. Donc, ça crée ce que nous, on appelle une fracture et des polarités de plus en plus fortes dans la façon dont les gens sont traités au travail, avec des chiffres sur l'attractivité de certains métiers qui sont extrêmement en baisse. Donc, je peux parler de la construction, je peux parler de la santé, je peux parler de la restauration. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est quand même que voilà, il y a vraiment différentes façons aujourd'hui d'être traité en tant que salarié en France selon son secteur et selon sa catégorie socioprofessionnelle. Et ça c'est un sujet qui est important parce que c'est pas l'esprit normalement du contrat de travail et du droit du travail. Et donc effectivement la grande question c'est de comment on fait pour le gommer ou pour faire différemment. Et donc là-dessus ouais. peut-être des sujets que nous on a pu observer. Donc déjà ce qui est intéressant c'est pour ceux qui n'ont pas le droit au télétravail c'est de comprendre pourquoi est-ce que tout ce qu'ils font dans leur semaine ou sur deux semaines est obligatoirement fait en présentiel et est-ce qu'on peut pas sur une semaine ou sur deux semaines leur permettre un jour de télétravail où on condenserait toutes leurs tâches ouais. De back-office, etc. Donc, il y a beaucoup de discussions là-dessus dans le retail et dans la restauration. Et en fait, il y a quelques boîtes quand même qui ont réussi à centraliser des tâches télétravaillables soit une fois par semaine, soit une fois toutes les deux semaines. Sur le sujet, il y a aussi d'autres boîtes qui ont plutôt dit, en fait, on peut pas promettre le télétravail, mais on va permettre une journée supplémentaire off. Et donc, la restauration et l'hôtellerie, là, il y a d'énormes expérimentations justement sur la semaine de 4 jours pour dire, effectivement, t'as pas le droit de faire du télétravail, mais du coup, en contrepartie, t'as une journée libre. Donc il y a des choses intéressantes comme ça, mais en tout cas là il va falloir aller sur ces sujets parce que sinon il y a une attractivité des métiers qui va continuer à dégringoler et c'est des métiers qui sont hyper hyper importants, hyper utiles. Et ce qui est intéressant, je lisais là un article du think tank Terra Nova, donc qui est un think tank reconnu sur le sujet du télétravail, et eux ils militent pour qu'il y ait un droit opposable à l'employeur de télétravail et qu'en fait qui qu'on soit, on puisse parler du travail comme d'un droit. Donc ça c'est intéressant parce que ça pousse le curseur un peu loin, mais ça permet peut-être de se donner un horizon ou de réfléchir de manière in situ à ces problèmes d'inégalité au travail, quoi. Et l'autre chose que nous on a remarqué donc sur l'impact du télétravail sur les inégalités, c'est la répartition de la charge domestique entre les hommes et les femmes, donc qui est de 4 heures par jour pour les femmes et de 2 heures par jour pour les hommes. Et en fait, c'est aussi les femmes qui font le plus de télétravail. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que du coup, elles utilisent le télétravail pour mieux répartir leur travail perso et pro, d'une certaine manière. Et en fait, ça a des effets en boucle qui ne vont pas être positifs parce qu'en fait, le fait de ne pas être présent a des impacts sur la carrière. Et en fait, ça va aussi normaliser à la maison le fait que ce soit la femme qui s'occupe d'un certain nombre de trucs. Donc, ça, il faut regarder les tendances. Mais en tout cas, si on se rend compte que les femmes prennent durablement plus de télétravail que les hommes, c'est vraiment un truc à interroger et peut-être à gommer, quoi.
Tu veux dire que les femmes, elles prennent des jours de télétravail quand il faut emmener les enfants chez le médecin, etc. Ou quand il faut faire une lessive, faire la vaisselle, etc. Ce genre de trucs, quoi. En fait, elles cumulent à la fois le travail pro et le travail perso, les tâches ménagères pendant les jours de télétravail.
Ouais, en fait, c'est ça, c'est des témoignages qui disent en fait, au lieu de faire mon temps de trajet, je fais la vaisselle, les lessives, je prépare le repas. Et au-delà d'aller emmener son enfant chez le médecin, qui est aussi un sujet, parce que 85% des rendez-vous médicaux sont pris par des femmes pour les enfants. Donc, c'est Doctolib qui a révélé cette stat. Mais en fait, c'est surtout une normalisation de la charge domestique qui est du coup qui est inégalement répartie et qui a des impacts sur la carrière.
Ok. Mais et alors, ok. En fait, ça a des impacts sur la carrière parce qu'en fait, on est dans un environnement où la majorité des boîtes qui proposent du télétravail, elles le sont, comme tu disais au début, à 2-3 jours par semaine. Et que donc, en fait, plus tu prends de jours de et que donc, ça veut dire que la culture de la communication formalisée et asynchrone n'existe pas vraiment, et que donc les femmes, plus elles sont en télétravail, plus elles sont exclues du collectif, en fait, c'est ça que tu veux dire.
C'est exactement ça. En réalité, le nombre de boîtes vraiment matures pour permettre les mêmes conditions de carrière selon si tu es très présent ou pas très présent, elles sont vraiment rares. Et en fait, aujourd'hui, le biais de voir la personne et d'avoir le sentiment qu'elle est disponible, ça va être des critères très forts pour évoluer professionnellement.
Ok, Ok. Intéressant et à surveiller du coup. Savoir si. Et du coup, tu sais, vous avez des chiffres là-dessus sur le nombre des femmes qui télétravaillent versus le nombre d'hommes qui télétravaillent ?
Écoute, là, je ne les ai plus en tête.
Ok.
Mais je sais qu'il y a une plus grande proportion de femmes qui télétravaillent. Je te les redonnerai.
Ok.
Comme ça, on pourra l'ajouter en commentaire.
Ouais, c'est intéressant. Exactement, ouais. C'est ce que j'allais dire. Je veux bien. Je veux bien pour que vous les ajoutiez en commentaire. Pour les mettre en commentaire, ça peut être hyper intéressant. Ok, écoute, je pense qu'on arrive au bout de ce podcast. Il y a plein de choses intéressantes. Je finis toujours par à peu près la même question qui est transformée en fonction de l'invité, évidemment. Donc toi, si tu devais... imagine que tu as une connaissance qui veut monter une boîte ou transformer son entreprise pour mettre en place du télétravail. Quels sont les conseils que tu lui donnerais, les 2-3 conseils pour qu'il le fasse dans les meilleures conditions possibles ?
Déjà bravo à cette personne, parce que c'est vraiment très cool et très courageux de monter une boîte. En termes de conseils, en fait, pour moi, il y a quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ont, parce que moi, je me rends compte quand je les rencontre que souvent... la volonté de créer une boîte, c'est aussi la volonté de créer une équipe et un modèle social qui est différent. Mais en fait, il y a des bases à poser en termes de vision, de culture et de métier pour en décliner le modèle social ou le modèle opérationnel qui va vraiment permettre à l'activité de se développer. Tu vois, le télétravail, il a quoi comme place dans ce modèle social-là ? Et comment est-ce qu'il peut être développé. Donc, je pense qu'il y a un truc de poser un peu les bases. Numéro 2, okay. De décentrer la responsabilité de la prise de décision sur le télétravail aux équipes elles-mêmes, mais en le faisant bien, avec un kit de réflexion. Hyper intéressant d'ailleurs que le fondateur ou la fondatrice soit présente à ces discussions, parce que ça permet vraiment de faire remonter de la matière. Et après, numéro 3, une fois qu'on a accepté que le télétravail fait partie de la vie, comment on travaille vraiment sur... le fait qu'on ait une boîte qui est réellement remote compliant, comment on travaille le fait de prendre des décisions, de mettre l'info par écrit, etc. Parce que si en réalité on n'est pas du tout là-dessus, eh ben, ça va juste créer des effets de bord pour ceux qui prennent le plus de télétravail.
Ok, super, super intéressant. Sur le point numéro 2, qui est de décentraliser les discussions pour la mise en place. Tu disais d'utiliser des kits. Est-ce que tu as des exemples de questionnaires, tu vois, de kits qu'on pourrait utiliser, réutiliser ? Parce que ça, c'est, je pense, hyper important. Il y a peu d'informations.
Ouais, alors on en a beaucoup. Enfin, nous, on en a conçu plusieurs pour différentes entreprises. En fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment... Tu peux le pousser plus ou moins loin. Les questions qu'il faut se poser, c'est quelles sont les tâches qui constituent notre métier ? Est-ce que ça va évoluer dans les prochaines années pour se donner un peu de perspective ? Comment est-ce qu'elles s'organisent au mieux en termes d'usage ? Donc, collaboration, synchronisation, concentration. Qu'est-ce que je fais le mieux chez moi ? Qu'est-ce que je fais le mieux au bureau ? Si jamais il y a des choses que je fais chez moi, est-ce que ça va avoir des impacts sur les autres ? Quel rituel on a besoin d'avoir collectivement ? Quelle temporalité on se donne ? Quel ordre du jour pour ces rituels ? Est-ce qu'on a besoin de vivre aussi de la convivialité ? En fait, c'est de s'assurer que tous les usages, etc. sont présents. Et après, nous, on a déjà fait aussi pour des boîtes une réflexion plus approfondie sur les besoins individuels de chacun, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens pour qui le télétravail, en réalité, c'est vraiment une... En fait, ils le veulent, ils le font, mais en fait, ça les déprime. Parce que c'est pas leur personnalité et leurs besoins, leur façon de se recharger en énergie. Donc, c'est intéressant de se dire, moi, je suis plutôt extravertie. En fait, j'ai besoin de ci, ça, ça au travail. Donc, en fait, mon environnement de travail préféré, c'est celui-là. Et de regarder aussi sur comment les règles du collectif viennent ou pas positionner en fait, les individus sur l'échiquier des règles qu'on se donne pour savoir si c'est compatible ou pas par rapport aux différents individus qui composent le groupe, quoi.
Et alors du coup, une question qui vient après, c'est comment tu fais si c'est pas compatible ? Parce que tu vois, imagine, il y a une entreprise de 20 personnes, on se met autour de la table, on discute, il y a 18 personnes qui sont OK pour, je sais pas, peu importe, mais tu vois, mettre en place du full remote, etc. Et tu en as 2 qui sont pas du tout OK. Comment tu gères ça ? C'est relativement compliqué, non ?
Alors déjà, je pense qu'il faut jamais interdire aux gens de venir au bureau 5 jours sur 5 s'ils le veulent. Tu vois, je comprends pas, par exemple, ce 3 jours à base de 3 jours obligatoires, pas plus, pas moins. Donc, est-ce que ces personnes, elles ont des réticences juste par rapport au fait qu'elles, elles ont envie de venir au bureau 5 jours, ou si c'est vraiment sur le modèle de boîte? Et ça, là-dessus, à mon avis, quand même, ça devient tellement partie intégrante de la culture. Quand on se parle d'une boîte remote, enfin, c'est quand même une boîte ultra organisée, ultra processée, avec des règles écrites, etc. Et je pense réellement que ça peut ne pas convenir à certaines personnes. Donc, de la même manière que d'autres aspects culturels d'une boîte ne peuvent pas convenir à certaines personnes.
Ouais, ok. Ok.
Après, sur 20 personnes, il y a la maille de l'équipe. C'est-à-dire que si ces deux personnes, elles sont dans la même équipe, peut-être qu'il y a quelque chose à trouver qui est différent pour 5 des 20 personnes, tu vois.
Ouais, intéressant. Intéressant. Et intéressant aussi le point du on ne devrait pas interdire aux gens d'avoir un bureau 5 jours par semaine, en fait. C'est cool. C'est cool comme réflexion. Écoute, Flore, merci beaucoup pour cet épisode. C'était très intéressant. Moi, je vais continuer à suivre Boson Project parce que ce que vous faites est vraiment cool et ça permet toujours de reprendre du recul sur nos pratiques et les différentes tendances et même les effets de mode qu'on a tendance à voir sur LinkedIn, par exemple. Donc hyper intéressant. Merci beaucoup d'être venu sur ce podcast.
Avec plaisir, Xavier. Puis moi, je continuerai à écouter les épisodes de Génération Remote qui me font aussi beaucoup grandir.
Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris quelque chose, allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et laissez-moi un petit commentaire pour m'encourager, c'est ce qui m'aide le plus. Enfin, si vous cherchez à recruter en full remote, allez sur remotefr.com, c'est la seule marketplace spécialisée dans les jobs 100% en télétravail. À dans 15 jours pour le prochain épisode.